Ce matin, notre méditation va porter sur un passage tiré du Nouveau Testament, du livre des Hébreux. Alors si nous ignorons l'auteur de ce livre, qui est l'auteur de ce livre, nous savons en revanche, grâce à la lecture de ce livre, nous savons le but qu'il a poursuivi. Et en particulier, le livre des Hébreux présente la supériorité de Christ sur tout ce qui existe, sur toute la création. Et il montre que Jésus est pleinement suffisant pour nous sauver. Et le chapitre 10, que nous allons lire en partie, met en particulier l'accent sur la nécessité de persévérer dans notre foi, en Christ. Puisque Christ est pleinement suffisant pour nous sauver, par notre foi en Christ, nous avons obtenu le pardon de Dieu. Nous sommes sauvés, nous pouvons librement nous approcher de lui. Mais voilà, il y a un risque. Ceux qui se disent chrétiens et qui se réclament de Christ courent un danger, celui d'abandonner leur foi en Jésus. Et si jamais ils faisaient une chose pareille, si jamais ils se détournaient volontairement de Jésus, si jamais ils faisaient le choix insensé de s'éloigner de lui, alors leur sort serait absolument dramatique et terrible. Ils seraient séparés de Dieu pour toujours. Ils n'auraient plus d'espérance et ils seraient perdus à tout jamais. Notre lecture portera sur le 10e chapitre du livre des Hébreux, les versets 19 à 39. Si vous avez une traduction, la même édition que celle-ci, c'est à la page 793. Hébreux 10, versets 19 et suivants. Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Cette route nouvelle et vivante, il l'a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. De plus, nous avons un souverain prêtre établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. En effet, si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une terrible attente du jugement et l'ardeur du feu qui dévorera les adversaires de Dieu. Celui qui a violé la loi de Moïse est mis à mort sans pitié sur la déposition de deux ou trois témoins. Quelle peine bien plus sévère méritera donc-t-il, à votre avis, celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura jugé sans valeur le sang de l'Alliance, grâce auquel il a été déclaré saint et aura insulté l'Esprit de la grâce. Nous connaissons en effet celui qui a dit « C'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite. » Il a ajouté « Le Seigneur jugera son peuple. » Oui, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Souvenez-vous des premiers jours. Après avoir été éclairés, vous avez supporté un grand et douloureux combat. Tantôt vous étiez publiquement exposés aux injures et aux persécutions, tantôt vous vous montriez solidaires de ceux qui se trouvaient dans la même situation. En effet, vous avez eu de la compassion pour moi dans ma prison et vous avez accepté avec joie qu'on prenne vos biens, sachant que vous aviez au ciel des richesses meilleures et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance qui est porteuse d'une grande récompense. Oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qui vous a été promis. Encore bien peu de temps, et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Et le juste vivra par la foi. Mais s'il revient en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne faisons pas partie de ceux qui reviennent en arrière pour leur perte, mais de ceux qui ont la foi pour le salut de leur âme. Marcher avec Dieu n'est pas toujours facile, ni de tout repos. Et dans certaines circonstances, nous pouvons être tentés de baisser les bras et de nous éloigner de Christ. Si marcher avec Dieu, si rester attaché à Christ était toujours facile, nous n'aurions qu'à nous laisser porter, nous n'aurions pas besoin de persévérer. Mais le Seigneur n'a jamais dit que marcher avec lui serait toujours facile. Au contraire, il a même dit dans sa parole que nous allons avoir besoin de persévérance. Verset 36. Oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qui vous est promis. Et c'est justement lorsque nous sommes tentés d'abandonner que nous avons besoin de persévérer. Dans notre marche avec Dieu, nous avons tous besoin de persévérance parce que tous nous risquons de nous éloigner de Dieu avec les circonstances, avec les conséquences, pardon, terribles qui en découleraient pour nous. Aussi, afin que nous lui restions attachés, et parce que ce n'est pas toujours facile, le Seigneur nous demande de veiller les uns sur les autres. Veillons les uns sur les autres, c'est le thème de cette prédication. Veillons les uns sur les autres. Alors nous avons là un commandement qui va à l'encontre de notre société qui prône plutôt l'individualisme. Alors, il est vrai que l'on vient individuellement au Seigneur. Il est vrai que la foi en Jésus est une démarche personnelle, et il est vrai même que selon 2 Corinthiens 5:10, chacun de nous comparaîtra seul devant le tribunal de Christ afin de recevoir le salaire de ce qu'il aura fait en bien ou en mal durant sa vie. Mais il ne faut pas confondre responsabilité individuelle et individualisme. Parce que la foi chrétienne, c'est l'inverse de l'individualisme. La foi en Jésus-Christ ne nous pousse pas à faire les choses sans tenir compte des autres. Mais au contraire, la foi en Jésus nous amène à nous réconcilier avec les autres, à nous rapprocher d'eux, à prendre soin d'eux et à vivre la communion fraternelle, l'unité du corps de Christ, l'interdépendance entre frères et sœurs. L'individualisme nous dit « je veille sur moi-même sans tenir compte des autres », alors que Jésus, par sa parole, nous dit « veillons les uns sur les autres ». Et pour comprendre ce que signifie « veillons les uns sur les autres » dans la pensée de Dieu, nous allons nous intéresser plus particulièrement aux versets 23 à 25. Ce sont ceux qui sont imprimés sur les feuilles qui vous ont été distribuées. Ces versets qui nous disent « Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Alors, veiller les uns sur les autres est encadré par deux choses que nous allons voir. Juste avant, il est écrit « Retenons fermement l'espérance que nous proclamons » et juste après « N'abandonnons pas notre assemblée. » Tout d'abord, retenons fermement l'espérance que nous proclamons. Qui dit foi en Jésus, dit croyance en Jésus. Nous croyons ce que Jésus a fait pour nous. Nous croyons ce qu'il a dit. Nous croyons en ses promesses, en ses commandements. Nous croyons que Jésus est vivant et agissant aujourd'hui. Nous croyons que Jésus nous a sauvés et que par son sacrifice, voilà, nous avons le plein pardon de nos péchés et que maintenant, nous pouvons donc nous approcher de Dieu. Nous avons un libre accès auprès de Dieu. Nous pouvons donc rentrer en relation avec Dieu. Nous croyons aussi que par son esprit, Jésus vit en nous. Il vit et il agit en nous. Nous croyons qu'en Jésus-Christ, nous pouvons avoir la victoire sur le péché et en être guéris, libérés. Aussi, nous avons une espérance. L'espérance de la vie éternelle, mais aussi l'espérance que dès à présent, Jésus qui est vivant, vit en nous, nous conduit, nous fortifie. Eh bien, si nous voulons être en mesure de veiller les uns sur les autres, nous ne devons pas simplement nous contenter de proclamer notre foi en Jésus et toutes ses merveilleuses promesses, mais nous devons aussi retenir l'espérance que nous avons en lui, coûte que coûte. C'est-à-dire que notre manière de vivre, nos pensées, nos sentiments, nos paroles doivent découler de l'espérance que nous avons en Jésus-Christ. Voilà, nous ne pouvons pas d'un côté dire « je crois en Jésus », mais d'un autre côté, vivre comme si en fait Jésus n'existait pas. Nous ne pouvons pas dire « voilà, moi j'ai la vie éternelle, mon espérance est au ciel ou sur une nouvelle terre ». Et puis en même temps, vivre comme si notre seule espérance était sur ce que le monde, notre vie actuelle va être capable de nous proposer. Et privilégier ça à notre relation avec Dieu. Nous ne pouvons pas dire « Jésus est vivant » et en même temps étouffer, éteindre son esprit qui est en nous par nos péchés. Nous ne pouvons pas dire « Jésus est puissant » et en même temps ne pas compter sur lui. Notre capacité à veiller les uns sur les autres est liée à ce que nous retenons de notre espérance, pas simplement à ce que nous savons ou ce que nous proclamons, mais à ce que nous retenons. Retenons fermement l'espérance que nous proclamons. Et pourquoi est-ce qu'il est important de retenir cela? Le verset poursuit. « Car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Jésus est fidèle, cela signifie que nous pouvons compter sur lui. Et que toute l'aide que nous allons pouvoir apporter aux autres se fonde sur le fait que nous pouvons compter sur Jésus. Pas simplement dire que Jésus est puissant et vivant, mais compter sur Jésus. Retenir fermement notre espérance, c'est la première condition nécessaire pour que nous puissions veiller les uns sur les autres. Et bien sûr, il y a une autre condition à remplir, c'est celle de ne pas abandonner les autres. N'abandonnons pas notre assemblée. Comment est-ce que nous pourrions veiller les uns sur les autres si jamais nous ne sommes pas fidèles? Comment est-ce que nous pourrions veiller sur les autres si nous les abandonnons? Je vais veiller sur toi, mais je m'en vais à l'autre bout du monde. Comment est-ce que l'on pourrait prendre soin de moi si jamais j'abandonne mon église? Alors, certaines personnes qui ont abandonné leur église disent parfois, voilà, je suis parti, et puis depuis que je ne viens plus à l'église, eh bien, plus personne ne vient me voir. Plus personne ne prend de mes nouvelles, plus personne ne se soucie de moi, plus personne ne prend soin de moi. Alors, bien sûr, on peut regretter que l'église en son ensemble n'ait pas continué à rester en contact avec cette personne. Mais en même temps, comment interpréter autrement cette prise de distance, comment est-ce qu'on pourrait l'interpréter autrement que je désire prendre du recul par rapport à vous, avec vous, enfin, je désire ne plus avoir de contact avec vous. Parce que abandonner l'Église, l'Église n'est pas une chose abstraite, c'est pas une institution. L'Église, c'est une assemblée de personnes qui appartiennent à Jésus. C'est un groupe de personnes qui s'assemblent autour de Jésus-Christ pour grandir ensemble, pour le servir ensemble et pour mettre ensemble au service des uns des autres et du Seigneur leurs dons. Quand on prend ses distances, quelque part on dit aux autres, mais je prends aussi mes distances avec vous, laissez-moi tranquille. Si nous voulons que l'on veille sur nous, et en particulier que l'on nous encourage dans notre marche avec Dieu, que l'on nous aide à rester attachés à Christ, nous devons avoir une vie d'église. Nous devons rejoindre le corps vivant de Christ, nous devons côtoyer des frères et sœurs, parce que dans le plan de Dieu, l'église est le moyen par lequel le Seigneur veut prendre soin de nous. C'est aussi le lieu et le moyen par lequel le Seigneur nous demande de prendre soin des autres. N'abandonnons pas notre assemblée. Alors, abandonner notre assemblée, hein, ce n'est pas une tentation nouvelle, moderne, ni un comportement typique, voilà, à ce que les gens vivent de nos jours. Dès le début de l'Église, on constate ce phénomène. Le texte que nous lisons est écrit dans les tout premiers temps de l'Église. Il est écrit « N'abandonnons pas notre assemblée comme certains en ont l'habitude ». Alors, parmi les personnes hein, qui abandonnent l'Église, certaines ne sont pas converties. Voilà. Elles viennent à l'Église, elles cheminent un peu ou pas du tout, mais n'ayant pas rencontré Christ, elles partent ailleurs. Et ça, ce n'est pas forcément un mal. Parce que l'Église, au sens biblique du terme, n'est composée que de personnes converties. Alors, l'Église locale, elle, accueille en son sein et avec joie, et j'espère que nous serons une Église toujours accueillante. Elle accueille des personnes qui ne sont pas converties et qui sont en recherche. Et si elles recherchent sincèrement Dieu, alors on peut avoir une certitude, le Seigneur va se révéler à elles et alors nous dirons, voilà, alléluia, gloire à Dieu. Mais si ces personnes ne recherchent pas Dieu, mais autre chose que Dieu, alors il vaut mieux pour elles et pour l'Église qu'elles poursuivent leur recherche d'autre chose que Dieu ailleurs que dans l'Église. C'est pour ça qu'il n'est pas plus mal que les personnes qui ne cherchent pas Dieu finissent par abandonner l'Église. Mais ce qui est vraiment triste en revanche, c'est que des chrétiens, des personnes qui ont rencontré Christ, abandonnent l'Église. Et en règle générale, cela arrive, hein, lorsqu'on discute avec des personnes qui sont sans Église, en règle générale, cela arrive parce que ces chrétiens ne trouvent pas que l'Église dans laquelle ils étaient était assez parfaite, assez bien, et que l'Église ne leur apportait pas ce qu'ils recherchaient. Donc ils sont déçus par l'Église et du coup, ils l'abandonnent. Mais c'est justement lorsqu'on est déçu par l'Église, lorsque l'on trouve qu'elle n'est pas parfaite, que nous devrions non seulement y rester, mais plus que ça encore, que nous devrions nous y investir. Parce que si nous trouvons que l'Église n'est pas parfaite, eh bien alors, aidons-la à s'améliorer. Si nous trouvons que nos frères et sœurs ne reflètent pas assez la personne de Jésus, eh bien, encourageons-les à aller dans la bonne direction. N'abandonnons pas notre assemblée, mais encourageons-nous mutuellement. L'Église, dans le plan de Dieu, sert à cela. Elle sert à ce que ceux qui appartiennent à Christ s'encouragent mutuellement à ressembler de plus en plus à Jésus, à penser comme Jésus, avoir les mêmes sentiments que Jésus, à vivre et à agir comme Jésus. Si l'Église était parfaite, si les gens étaient parfaits, nous n'aurions pas besoin d'espérance parce que nous-mêmes, nous serions parfaits. Nous pourrions même venir à Dieu sans passer par Jésus. Mais l'Église n'est pas parfaite parce qu'aucun de nous n'est parfait. Puis souvent, hein, on dit, mais c'est quoi une église parfaite quand on cherche un petit peu à savoir qu'est-ce que les gens appellent une église parfaite? Mais souvent, ce qui ressort, c'est qu'une église est considérée comme parfaite, entre guillemets, lorsque les gens se sentent bien dans cette église. Eh bien, le rôle de l'église n'est pas que l'on se sente bien. Alors, je ne sais pas pour vous, hein, mais moi, personnellement, pour que je me sente bien dans l'Église, il faudrait que l'on me dise que je suis quelqu'un de bien et que tout est bien et va bien dans ma vie. Qu'on me dise « Tu as raison !» même lorsque j'ai eu tort. Que l'on me dise « Oh, tu as bien parlé !» et jamais que l'on me dise « Mais je crois que tu as manqué de respect ou de sagesse dans ce que tu as dit. » Que l'on me dise « Tu es un père et un mari formidable !» et jamais que l'on me dise « Mais il me semble que tu ne t'occupes pas assez de tes enfants ou que tu négliges ton épouse. » Qu'on me dise « Mais tu es entièrement consacré au Seigneur !» et jamais que l'on me dise « Il me semble qu'il y a dans ta vie des choses que tu devrais régler avec le Seigneur. » Si l'Église était ça, je me sentirais bien dans l'Église. Mais j'espère que ce jour n'arrivera jamais, parce que le jour où l'Église me dira que je suis quelqu'un de bien, de 100% bien, je parle, et que tout ce que je fais est bien dans ma vie, eh bien, ça signifiera que l'Église aura cessé de jouer son rôle envers moi, le rôle de m'aider à cheminer et à ressembler de plus en plus à Christ. Une bonne Église est, selon Dieu, une assemblée où nous veillons les uns sur les autres, où nous nous encourageons mutuellement à rester attachés à Christ, parce que nous avons des difficultés à vivre cela personnellement. Veillons les uns sur les autres. Alors, c'est quoi veiller les uns sur les autres ? Veiller les uns sur les autres, c'est faire bénéficier aux autres de notre regard, de nos prières, et aussi parfois voilà, d'une parole pleine de sagesse, de telle sorte que ça va les encourager hein, dans leur marche. Veiller les uns sur les autres, ce n'est pas faire les choses à la place de l'autre. Ce n'est pas contraindre l'autre. On peut contraindre les gens, hein, ça c'est pas très compliqué à faire, par la peur. Mais l'idée c'est pas qu'on contraigne les gens à faire semblant de marcher avec Dieu. C'est qu'on encourage les gens à ressembler de plus en plus à Christ. C'est qu'on les aide à y voir clair dans leur vie, parce que tous, hein, on est pareil. Quand on est dans quelque chose parfois, on est tellement pris par ça qu'on a du mal à avoir une vision d'ensemble. Et parfois, il est très précieux d'avoir un regard extérieur qui, lui, va nous dire « Mais écoute, t'es à fond là-dedans. Mais moi qui suis à l'extérieur, il y a quelque chose qui me questionne ou qui m'interpelle, dont j'aimerais te parler. » Ça, c'est veiller les uns sur les autres. Ne considérons pas l'Église comme un lieu de consommation, voilà, le lieu qui va nous donner tout ce que nous voulons. Moi, c'est comme ça un peu que je considère les hypermarchés, voilà. J'ai une carte de crédit limitée, donc je ne peux pas tout acheter, mais voilà, c'est j'y vais chercher ce que je veux. Je ne suis pas prêt à... Quand quelqu'un m'interpelle pour me dire « Je pense que ça, ce serait bien pour vous », non, ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est un lieu de consommation. L'Église, ce n'est pas ça. L'Église est le cadre prévu par Dieu pour que Dieu prenne soin de nous grâce à nos frères et sœurs. Parce que c'est le lieu sur lequel nous allons, dans lequel nous allons veiller les uns sur les autres. Et pour veiller les uns sur les autres, il nous faut déjà être attentifs aux autres. Que vis-tu en ce moment? Qu'est-ce que tu ressens au fond de toi? On ne peut pas veiller les uns sur les autres si on reste loin d'eux. Soyons donc proches les uns des autres. Ça veut dire qu'il nous faut cultiver, pas simplement la communion fraternelle, l'entente en Christ, mais aussi l'amitié fraternelle. Une proximité, une intimité qui nous permet de voir l'autre dans ce qu'il vit et de lui parler cœur à cœur. Et puis, et ça c'est probablement la chose la plus difficile, en tout cas pour moi, soyons vrais. Comment est-ce qu'on peut veiller les uns sur les autres si nous ne sommes pas vrais devant Dieu et vrais devant les autres? On met le masque, tout va bien. Le masque du chrétien, ce qu'on imagine être le masque du chrétien spirituel. Soyons vrais en partageant ce que nous vivons. Si on nous demande comment est-ce que nous allons, c'est sûr que si on dit « tout va bien », voilà. Mais si ce n'est pas le cas, ne disons pas « tout va bien » lorsqu'on fond nous-mêmes, nous disons « non, ça ne va pas bien. J'ai des difficultés en ce moment avec le Seigneur ou dans ce que je vis avec les autres. » Reconnaissons les difficultés que nous avons à rester attachés au Seigneur et à le suivre. Reconnaissons aussi les sentiments qui nous habitent parfois et que nous avons tellement de mal à reconnaître et à accepter. Nos frustrations, nos colères, nos désirs insatisfaits, nos peurs, nos blessures. Tant que ça, on ne les reconnaît pas nous-mêmes déjà dans notre propre vie, tant qu'on ne peut pas s'en ouvrir au Seigneur ou à quelqu'un d'autre, ces choses-là vont rester masquées, mais pas absentes. Alors, être vrai, hein, ce n'est pas, bien sûr, tout dire et tout montrer à tout le monde. Parce qu'il y a des choses qui peuvent être trop importantes pour nous, trop gênantes, trop douloureuses pour nous, pour que nous puissions les confier à n'importe qui, fût-il frère ou sœur. Parce qu'on peut être frère et sœur et malheureusement manquer d'amour, manquer de sagesse, manquer d'expérience, manquer de délicatesse, manquer de confiance. Donc il ne s'agit pas de dire tout à n'importe qui, mais simplement de s'ouvrir à un frère ou une sœur en qui nous avons confiance et qui pourra, première chose, prier pour nous et peut-être aussi avoir des paroles inspirées, des paroles qui viennent du Seigneur. Si nous voulons que les autres puissent veiller sur nous, il nous faudra, un jour ou l'autre, cesser de nous cacher derrière le masque du chrétien spirituel pour qui tout va bien. Et il nous faudra nous ouvrir à quelques personnes de confiance et être vrai avec eux. Quand on est vrai avec un frère ou une sœur, ça nous aide aussi à être vrai devant Dieu. Vous savez, il y a quelque chose qui m'a marqué dans mon expérience personnelle, c'est que j'avais un couple d'amis chrétiens et avec qui j'étais très proche. On était voisins, amis, et puis ils ont déménagé. Donc du coup, j'étais un petit peu moins proche géographiquement, mais très proche d'eux encore, au téléphone étant ce que je vivais. Eh bien, lorsque leur couple a explosé, parce qu'il a explosé, je n'avais absolument rien vu venir. Et ça, je me suis dit, mais quel type de relation j'avais avec eux? Comment une telle chose a-t-elle pu arriver sans que je m'en rende compte? Alors, avec le recul, des fois, on se dit bien, ah, ouais, tiens, il y avait tel truc qui m'est semblé un petit peu bizarre une fois. Mais autrement, ils avaient masqué tout ça. Moi qui étais un ami proche d'eux, ils ne s'en étaient jamais ouverts. Et lorsque leur couple a explosé, il a explosé tellement fort que les débris sont encore éparpillés maintenant. Ce couple ne s'est jamais reconstitué. Si seulement ils avaient pu être vrais. Pas forcément avec moi, qui n'étais peut-être pas très bien placé à l'époque pour les aider, mais vrais au moins avec d'autres chrétiens, des chrétiens matures, expérimentés, qui eux avaient peut-être connu aussi ces difficultés. Si seulement. Soyons vrais en nous ouvrant aux autres de nos difficultés, au moins à certaines personnes, mais soyons également vrais en partageant aux autres ce que nous voyons dans leur vie et qui peut parfois nous interpeller, nous surprendre. Osons dire aux autres ce qui dans leur vie nous semble les éloigner de Dieu. Dans ce qu'ils vivent, par exemple, des fois, à l'extérieur, on dit, mais qu'est-ce qu'ils vivent là? Comment tu peux vivre ça avec le Seigneur? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui te semble curieux dans ce que tu vis? Est-ce que tu n'as pas l'impression que là, il y a un péché dont tu es conscient et pourtant hein, tu vis comme ça? Des fois aussi, on peut reprendre quelqu'un sur les paroles qu'il a prononcées. Nos paroles qui portent nos sentiments. Des fois, on dit, mais tu étais plein d'amour dans ce que tu as dit à cette personne ou à moi-même. aidons-les aussi à prendre conscience des sentiments négatifs, des choses qui ruinent leur vie et dont ils n'ont pas forcément conscience, mais qui transparaissent. Le but, en tout cas, dans tout ça, c'est que nous devons, ensemble, nous encourager, nous inciter à l'amour et aux belles œuvres. Parce que les deux sont liés, l'amour et les belles œuvres. L'amour est le sentiment, est la disposition que nous devons avoir envers Dieu et envers notre prochain. Eh bien, les belles œuvres sont la manifestation de notre amour pour Dieu et de notre prochain. Dieu, dans sa parole, par son esprit, nous dit ce qu'est l'amour et comment nous devons aimer. Et notre prochain est celui qui va bénéficier de notre amour. L'Église est le lieu où nous devons mutuellement nous encourager à mieux aimer. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas déjà sur la bonne voie, mais à mieux aimer parce que tous nous pouvons progresser. L'Église est le lieu où nous devons mutuellement nous encourager à pratiquer de belles œuvres, c'est-à-dire à accomplir ce que Dieu lui-même a défini comme ce qui est bien ou ce qui est mal. Quelque part, il faut que nous nous encouragions à faire ce que Jésus aurait fait à notre place. Et cet encouragement mutuel peut se faire par l'exemple. On oublie trop souvent le rôle de l'exemple. Vous savez, lorsque nous voyons quelqu'un qui déborde d'amour pour Dieu et pour son prochain, ça nous encourage à faire de même. Lorsque nous voyons quelqu'un qui, dans sa vie, lutte contre le péché, et pourtant il tient bon, ça nous encourage, nous, dans notre propre lutte. Lorsque nous voyons quelqu'un qui reconnaît son péché et qui demande pardon à Dieu et aux personnes qu'il a offensées, ça nous encourage à faire de même. Nous sommes, nous aussi, alors encouragés à reconnaître nos péchés et à nous en repentir. Et à l'inverse, il y a malheureusement parfois des mauvais exemples. On peut des fois donner ou montrer de mauvais exemples. Une autre façon de nous encourager mutuellement, c'est de le faire par la parole. Encourageons-nous à mieux nous aimer et à pratiquer de belles œuvres. Allons remercier et reconnaître ce qui se fait de bien. On oublie trop souvent de le faire. C'est un encouragement, ça, d'être justement qu'on nous dise, j'ai apprécié telle chose que tu as pu dire ou faire. Allons également, allons trouver nos frères et sœurs lorsque, il y a quelque chose qui, dans leur vie, semble pour nous être la manifestation du péché. Et bien sûr, faisons-le dans l'amour. La vérité doit se dire dans l'amour. Et malheureusement, nous faisons souvent l'inverse. Au lieu d'aller trouver directement la personne, qu'est-ce qu'on fait parfois ? Non, on va en parler à quelqu'un d'autre. On devrait aller trouver directement la personne, face à face, être en petit comité, lui ouvrir notre cœur, pas le dire à quelqu'un d'autre. Au lieu d'être motivé par l'amour, nous sommes en fait motivés par notre propre colère. Et nous allons dire aux autres les quatre vérités. Mais ce n'est pas l'amour qui nous pousse, c'est notre colère. Ce n'est pas ça que le Seigneur nous demande. Ou alors à l'inverse, si nous sommes remplis d'amour pour quelqu'un, pour un frère ou une sœur, on n'ose rien lui dire. Quelque part, notre amitié pour cette personne couvre tout. Ce n'est pas comme cela que nous veillerons les uns sur les autres et que nous pourrons mutuellement nous inciter à aimer et à accomplir la volonté de Dieu. Une mission que le Seigneur a confiée à son Église, c'est-à-dire une des missions que le Seigneur nous a confiées, parce que nous sommes l'Église, c'est de veiller les uns sur les autres, dans le but qu'ensemble, nous nous encouragions à aimer et à pratiquer de belles œuvres. Et cela implique donc que notre foi en Jésus ne doit pas être seulement proclamée, mais que nous devons compter dessus dans tout ce que nous vivons et faisons. Nous avons une espérance. Jésus est vivant et il vit en nous. Nous ne sommes donc pas tout seuls, nous pouvons compter sur Jésus parce qu'il est fidèle et qu'il accomplira ce qu'il a promis. Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Nous ne sommes pas parfaits, nos frères et sœurs ne le sont pas davantage, et bien évidemment, l'Église ne l'est pas non plus. N'abandonnons pas notre assemblée, comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Notre foi en Jésus est personnelle, individuelle, mais si nous sommes réellement nés de nouveau, nous sommes allant maintenant unis à Christ, c'est-à-dire que nous faisons partie du même corps que nos frères et sœurs. Alors veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. Amen.